carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Qadish, Qadish, la prière pour l'enfant mort. Nessim ne savait pas prier, et ce n'est pas cela qui importait le plus.
Bonjour, en 2010, disparaissait l'écrivain marocain Edmond Amran El Maleh. Cet érudit, né en 1917 dans une famille de négociants juifs aisés, originaire d'Essaouira, était aussi un passionné d'art plastique, un ancien militant communiste et un militant de l'indépendance du Maroc. Il a traversé le siècle habité par deux tragédies parallèles, le départ des juifs du Maroc et l'exode des Palestiniens arrachés à leurs terres.
Dans cet amour qui ne cessait de grandir en lui pour cet enfant. Un mot hébreu pour l'enfant arabe, la douleur se nouait à elle-même.
C'est à cet homme que Simone Bitton consacre son dernier film, Les mille et un jours du Hadj Edmond. Et à cette occasion, nous avons rencontré chez elle, à Paris, la réalisatrice franco-marocaine.
Bonjour.
Vous allez bien ?
On va parler avec vous de votre dernier film, Les mille et un jours du Hadj Edmond. Ça raconte la voix d'un juif musulman, comme il est dit dans le film à un moment. Ça raconte sa voix à lui, votre voix à vous qui se mêle. Et vous dites que c'est important que ces voix juives soient entendues. Pourquoi ?
Alors, Edmond El Maleh n'était pas du tout un juif musulman. Ça n'existe pas, ça, un juif musulman. Il était un juif arabe, il était un juif marocain. Il y a une personne dans le film, effectivement, et c'est très touchant quand elle le dit, qui dit c'était un juif musulman. C'est une dame qui était son employée de maison et qui raconte que il était tellement proche d'elle et de sa famille qu'il venait tous les ans dans leur quartier populaire le jour de l'Aïd et il voulait assister au moment où ils égorgeaient le mouton et il était l'invité d'honneur de l'Aïd. Et je lui dis à ce moment-là, mais il n'était pas musulman. Et elle, en toute naïveté, me dit mais il était juif musulman, quoi. C'est-à-dire que pour elle, en fait, ça voulait dire qu'il était un vrai Marocain.
C'est une voix nécessaire qu'il faut faire entendre encore aujourd'hui. Il a beaucoup écrit.
Je pense que la voix d'Edmond est nécessaire pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un grand écrivain et qu'il est resté méconnu. Et j'aimerais bien que mon film donne l'envie peut-être à des gens qui le pourraient de le rééditer, de le traduire, de faire circuler certains au moins de ses textes qui gagneraient vraiment pour la littérature marocaine francophone à être connus. Donc déjà il est nécessaire en cela. Il est nécessaire aussi, c'est une voix qui est nécessaire parce que il fait partie d'une sorte de tribu à laquelle je me sens moi-même appartenir, même si je suis de la génération juste après la sienne, qui est une espèce en voie de disparition qui est celle des juifs arabes. Voilà. Il n'y a presque plus de juifs arabes. Il y en a eu beaucoup. Le monde arabe était rempli de juifs et il s'est vidé de ces juifs. C'est un des grands exodes du XXe siècle dont on parle rarement en tant que tel. Parce que l'horreur que nos coreligionnaires ashkénazes ont vécue au XXe siècle était tellement atroce, tellement inouïe, qu'elle a éclipsé notre expérience juive à nous, qui, elle, même si elle a eu ses moments difficiles, était quand même une expérience pleine de lumière et de fraternité. Et donc, c'est passé un peu sous silence, ça. On nous oublie quand on parle de l'expérience juive, ou alors on en parle mal. Et donc, c'est nécessaire parce que Edmond a vraiment magistralement écrit cette expérience-là dans des livres qui, pour moi, sont très importants, en particulier « Mille ans, un jour ». Mille ans, c'est les mille ans de vie juive au Maroc. Certains disent même 2000 ans, certains disent même 3000 ans. En tout cas, ça se perd dans la nuit des temps. Il y avait des juifs au Maroc avant l'islam. Sur cela, tout le monde est d'accord. Et un jour, c'est le jour où ils sont partis, parce qu'ils sont partis très vite. Nous sommes partis très vite. Et nous n'avons pas été chassés. Nous avons été pris dans une espèce d'élan migratoire qui fait que cette expérience s'est arrêtée. Et Edmond lui a donné une voie littéraire.
Ces derniers temps, j'ai beaucoup pensé à toi. J'ai montré ton livre à un artisan. Il m'a fait cet objet en souvenir. Tu me manques. Tu manques à ce monde, Hajj.
Pendant que se déroule une guerre tellement horrible au Proche-Orient, une autre raison pour laquelle sa voix est nécessaire, et ça, ça prend peut-être encore plus d'importance en ce moment, et au moment surtout où des crimes tellement abominables sont commis en notre nom, au nom de tous les Juifs, c'est vraiment... Je m'en fous du mot, je veux pas rentrer dans les polémiques, est-ce que c'est un crime contre l'humanité, un crime contre, est-ce que c'est un génocide, etc. Je n'ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est que ça s'arrête. Et surtout, je ne veux pas que ça soit fait en mon nom. Or, c'est fait en mon nom, c'est fait au nom de tous les Juifs, que nous le veuillons ou non, parce que l'État d'Israël prétend parler et faire au nom de tous les Juifs, et l'idée se répand de plus en plus, en tout cas dans les sociétés occidentales, que de l'amalgame total entre Juifs et Israéliens. Donc c'est une voie très importante, celle d'Edmond, parce que Edmond était quelqu'un de totalement réfractaire au sionisme. Et il était bon, il se disait pas anti-sioniste, ça avait pas de sens pour lui, mais en tout cas, il était réfractaire, il était pas sioniste. Et
il le dit hein, dans le film.
Il dit surtout que pour lui, le sionisme avait détruit le judaïsme arabe, c'est-à-dire que c'est à cause du sionisme que son identité a été engloutie. Et je le ressens aussi. Ce qu'on sent qu'on est dans toutes les fibres de son être et de son identité est en train de disparaître. Alors, nous ne disparaissons pas, fort heureusement, par le génocide, ni par le meurtre, ni par la violence, mais il n'empêche que nous disparaissons. Ce que je suis, plus personne ne le sera. C'est-à-dire, nos enfants déjà ne le sont plus. Les Juifs arabes sont partis, leurs enfants déjà sont des Juifs américains, des Juifs français, des Juifs voilà, et ils ne se sentent plus Juifs arabes. Ils ont perdu la langue, ils ont perdu la culture, ils ont parfois encore un attachement.
Vous avez la sensation aujourd'hui que le Maroc se réconcilie ou fait renaître ou revit avec la communauté juive? Je sais qu'elle est bien moins importante, évidemment, qu'il y a...
Moi, je pense que le Maroc n'a jamais rompu avec aucune de ses composantes. Je veux dire, c'est pas du tout un paradis perdu. Hein. Il y a eu des moments de friction et d'actes, y compris violents, parfois, envers des Juifs au Maroc. Mais il y en a eu aussi tellement envers d'autres gens et d'autres... Voilà, une minorité religieuse, c'est pas toujours facile à vivre. Mais enfin, le Maroc, quand même, par rapport à tout ce qu'on connaît, et surtout par rapport à l'Europe, je veux dire, c'est... Oui, c'est un modèle. Et puis surtout, pas seulement de vivre en commun, mais de créer quelque chose ensemble. Dans mon film précédent, où je parle de tous ces saints, ces marabouts communs qui étaient vénérés à la fois par des juifs et des musulmans, c'est une culture que nous avons créée ensemble. C'est-à-dire la culture juive au Maroc, elle n'est pas du tout complètement séparée de la culture musulmane. Je sens que l'islam marocain fait partie de moi en tant que juive, et beaucoup de Marocains musulmans vous diront qu'ils sentent une partie juive en eux. Beaucoup d'intellectuels marocains vous diront qu'il y a un juif en moi. Il n'y a pas besoin de se réconcilier parce qu'il n'y a jamais eu la guerre entre le judaïsme et l'islam marocain. Il n'y a jamais eu de guerre, donc il n'y a pas besoin de faire la paix. Ce qui est sûr, c'est que politiquement, il y a des périodes, et cette période en est une depuis quelques années, où cette proximité qui est réelle et qui est populaire est utilisée à des fins politiques, c'est de bonne guerre, voilà. Mais dans Ziyara, justement, où je vais à la rencontre des gens que j'appelle les gardiens musulmans de ma mémoire juive, j'ai tenu à ce qu'il y ait à la fois des gens très simples, très humbles, parfois analphabètes, comme des gardiens de cimetières musulmans qui gardent les tombeaux de nos ancêtres, mais aussi de grands intellectuels, et aussi de grands opposants, des gauchistes qui sentent le soufre, qui ne sont pas du tout proches des autorités et qui disent tous quand les Juifs sont partis, on a perdu une partie de nous-mêmes. Ce n'est pas une posture politique, ça c'est vrai. Et c'est ça que j'ai essayé de raconter dans Ziyara, c'est le sentiment de perte des musulmans, c'est-à-dire des gens que nous avons laissés derrière nous. D'autres que moi ont raconté la nostalgie que les Juifs marocains ont de leur Maroc perdu. Mais je crois que personne ne s'était penché, en tout cas au cinéma, sur le sentiment de perte que ressentent les musulmans.
C'est un sujet un petit peu tabou, ça.
Au Maroc, il n'est pas tabou. Il est tabou dans beaucoup de pays arabes. Au Maroc, il ne l'est pas et il ne l'a jamais été. Moi, je retourne au Maroc depuis, je vous dis, je suis partie quand j'avais 11 ans, j'en ai bientôt 70. Je suis très souvent arrivée au Maroc et j'ai très souvent tendu mon passeport français à des douaniers, à 3 générations de douaniers. J'ai tendu mon passeport et tous, en voyant Biton né à Rabat, m'ont dit « tous, bienvenue chez toi ». Voilà. Donc, c'est pas tabou. Vous allez dans n'importe quelle ville ou village au Maroc, encore aujourd'hui, alors que ça fait 2 générations qu'il n'y a plus de Juifs, et vous demandez à quasiment à n'importe qui dans la rue « Est-ce que tu sais où se trouve le cimetière juif ?» Et il le sait. Il le sait. Et il va vous indiquer où est le cimetière juif. Si vous demandez ça à Pantin dans la rue, les gens ne savent pas. Alors qu'il y a le plus grand cimetière juif de France à Pantin, je pense. Okay. Là-bas, ils savent, parce qu'ils ont l'habitude de voir des Juifs, des touristes, mais c'est des touristes d'un genre un peu particulier, parce que les portes n'ont jamais été vraiment fermées, même pas pour les Israéliens, bien avant la normalisation. Les portes n'ont jamais été vraiment fermées. Et donc, les Marocains ont l'habitude de cette espèce de touriste particulier qu'est le juif marocain dans la rue avec un appareil photo, parfois une vieille photo, qui cherche son école ou la tombe de son grand-père. Et ils ont l'habitude de ce touriste-là. Donc, ils ont l'habitude de lui dire où c'est.
Vous, on vous entend dans tous vos films parler l'hébreu, le français, l'anglais, l'arabe, la darija, l'arabe marocain.
Oui. Mais moi, c'est pour ça, j'ai l'impression d'être une dinosaure. C'est ça que j'appelle l'espèce en voie de disparition. Et avec le temps qu'il me reste, j'ai fait des films sur le Moyen-Orient.
Sur la violence.
Et sur la violence. Et je me dis que ce serait quand même pas mal, avec le temps qui me reste, que je fasse un peu ce qu'a fait Edmond, parce que après nous, il y aura plus personne pour le faire. C'est-à-dire de donner à l'écran une existence à cette identité qui est la nôtre et qui est en train de disparaître avec nous.
Chez nous les musulmans, c'est-à-dire avant de prendre porter le Coran, on dit bismillah. Moi, à chaque fois, lorsque je prends la Torah, je le dis, je dis bismillah.
Vous le faites dans plusieurs de vos films. Dans Ziyara, on vous voit partir au Maroc sur les lieux saints juifs qui sont aujourd'hui gardés par des musulmans. Et dans Les Mille et Un Jours du Hadj Edmond, vous dites cette phrase: avec ma caméra, je recherche le passé et je filme le présent.
Je pense que tout documentariste peut dire ça, parce que notre caméra, elle ne peut pas filmer le passé. La caméra, elle ne filme que ce qu'elle a devant elle, à savoir le présent. Donc, je cherche le passé, je vais dans des lieux où se sont passées des choses, mais ces choses-là ne sont plus devant mes yeux. Ce qui est devant mes yeux, c'est le lieu tel qu'il est maintenant. Je filme un lieu où vivaient des Juifs, mais ils ne sont plus là, les Juifs. Voilà. Dans ce film aussi, je suis allée dans les lieux où Edmond a vécu, pour essayer de retrouver quelque chose de lui alors qu'il n'est plus là, bien évidemment. J'aime beaucoup faire ça, faire raconter l'histoire au lieu.
Oui, il y a quelque chose du territoire. Dans tous vos films, on voit bien que cette identité engloutie, comme vous dites, c'est tellement lié au territoire. Et dans vos films sur le Proche-Orient, sur la violence, c'est pareil, vous filmez le mur.
Je filme les lieux et je pense que les lieux, quand on prend le temps de les regarder longtemps, je fais souvent des plans longs, on me le reproche assez, en tout cas à la télévision, moins au cinéma, je laisse le temps de regarder un lieu pour lui laisser le temps de raconter son histoire. Et très souvent, il y arrive.
Au retour d'un enterrement, on doit toujours partager un couscous. Je n'étais pas à tes obsèques, Raj. Mais avec 13 ans de retard, j'ai eu droit à ma part de ton couscous d'adieu.
Il y a beaucoup de plans qui sont très émouvants, qui ont été parfois photographiés par des proches du Hadj Edmond sur ce visage qui change avec les ans. On sent dans ce film une immense peine de peut-être pas avoir été là pendant les dernières années auprès de lui. Oui. Vous dites « je filmais la guerre ».
Et oui, je dis à un moment, c'est vrai que j'étais proche d'Edmond, je l'aimais beaucoup, et Edmond était quelqu'un qui en voulait beaucoup aux amis qui le délaissaient. C'est-à-dire, il engueulait tout le monde. S'il apprenait par malheur que vous étiez passé par la ville où il habitait et que vous aviez omis de lui rendre visite, ça se passait très mal. Voilà, parce que l'amitié pour lui, c'était vraiment la chose la plus importante. Donc oui, je m'en suis voulu... de ne pas avoir été beaucoup à ses côtés pendant les dernières années de sa vie. Je lui ai rendu visite plusieurs fois au Maroc, alors que je n'y vivais pas. Mais enfin, il se trouve que je n'étais pas là. Je ne lui ai pas tenu la main dans ces derniers mois et je n'ai pas pu aller non plus à ses obsèques. Et je traînais cette culpabilité avec moi. Et il s'est passé, pendant le tournage, une chose assez étrange, c'est que je me suis rendu compte qu'une bonne partie des gens qui témoignent dans le film, qui étaient aussi des amis d'Edmond, vivent exactement le même sentiment de culpabilité. Et donc, on a fini par se consoler nous-mêmes en nous disant « Mais écoute, quand il a été très vieux, nous, on était en plein dans notre carrière, dans nos voyages, dans nos trucs, et ben voilà. » Mais lui, qui était très malin, il s'était fait d'autres amis. Et ce qui fait qu'il n'est pas du tout mort esselé. Il était très entouré, très bien entouré. Et cela dit, certains des amis de jeunesse, comme Laïla Chahid et Dominique Aidé, sont venus, et elles sont venues de loin pour ces derniers instants. Et j'ai fait le film aussi d'une certaine manière pour les remercier.
Pour célébrer peut-être aussi ce groupe. Il y a beaucoup de scènes autour de la nourriture, autour de la manière dont il savait cuisiner pour ses amis.
Ah ben, il adorait nourrir les gens, comme... c'est quand même quelque chose de très marocain, ça. Et lui, il avait ça très fort et il faisait très bien la cuisine. Et c'était toujours délicieux et inventif et créatif. Il maniait à la fois parfaitement la variété des épices traditionnelles marocaines, le goût de la cuisine marocaine qui est très raffiné. Et en même temps, il osait faire des mélanges avec des choses venues d'autres cultures culinaires.
Il était effectivement très, très marocain. Il était ah oui, parfaitement...
Il était complètement marocain. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi marocain que lui, en tout. Son dialecte était magnifique, sa manière de parler était très belle.
Vous vous sentez aussi très, très marocaine ?
Je me sens plus marocaine aujourd'hui. C'est marrant, étrangement, qu'il y a... Je me suis toujours sentie marocaine. Hein. Je n'ai jamais rompu avec le Maroc. J'ai quitté le Maroc à l'âge de 11 ans. C'est jeune, quand même. Mais en fait, je n'ai jamais rompu, vraiment. J'ai commencé à y retourner, disons, à peu près à l'âge de 30 ans. J'ai commencé à y retourner. J'y ai déjà fait 3 films. Et puis, les dernières 10, 15 dernières années, j'y retourne très souvent. J'ai renouvelé mes papiers marocains. Quand je suis au Maroc, je suis marocaine. Mais enfin, je n'ai pas fait le pas qu'a fait Edmond, c'est-à-dire d'avoir à 80 ans quitté Paris et tout ce qu'il avait construit ici pour retourner vivre et mourir au Maroc. Je n'ai pas fait ce pas-là, je pense que je ne le ferai pas, mais quand même j'y vais beaucoup. Je m'y sens chez moi, voilà. Et c'est pour ça que j'ai tenu à ce que ce film, on tenait beaucoup à ce qu'il soit présenté en première mondiale au Maroc et pas ailleurs. C'était très important pour moi. Après, le film vivra sa vie.
Merci à Simone Bitton de nous avoir accueillis. À la réalisation de Carrefour du Maghreb, Françoise Grelot. Le podcast de l'émission est disponible sur RFI.fr, les plateformes d'écoute et l'appli Pure Radio.